Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jason Pédagogie Numérique. Une auditrice francophone m'a demandé la signification du verbe « jaser ». Alors je profite de cet épisode pour vous donner une petite définition mise en contexte. Il faut savoir que j'adore les mots du français et la richesse que nous apporte la francophonie à travers le monde. « Jaser », au Québec et au Canada, est un verbe qui signifie « bavarder ». J'aime bien ce terme parce que sa sonorité me fait penser à deux personnes qui discutent autour d'un café. Dans cet épisode, c'est avec Martine Peters, directrice du partenariat universitaire sur la prévention du plagiat, professeure chercheuse à l'Université du Québec en Outaouais et spécialisée en didactique du français, que je vais jaser. Les travaux de Martine portent sur le créacollage numérique, qui est l'art du copier-coller, l'écriture, l'intelligence artificielle et le plagiat. J'ai eu l'occasion d'explorer les résultats d'une des recherches de Martine lors d'une rencontre organisée par l'Association québécoise de pédagogie collégiale, et puis j'ai appris par la suite qu'elle était aussi professeure de français. Alors pour moi, quoi de mieux que provoquer une rencontre ? Avec Martine, on va parler de plagiat et d'intégrité académique en plaçant les enseignants, enseignantes et élèves dans une approche centrée sur l'humain. Peut-être qu'il faut prévenir avant de guérir. Alors, je vous laisse en découvrir un peu plus dans ce numéro et bonne écoute! En tout cas, moi, je suis ravie de revenir. C'est ma première, c'est la saison 3 du balado Jason Pédagogie Numérique. Puis, c'est la première fois que je me déplace. Ah, parce que ça s'est créé pendant la COVID.
Pendant la COVID. Alors, vous avez toujours fait à la maison.
Exactement. Par Zoom ou par Teams. Et puis là, c'est la première fois que je me déplace. Donc, c'est une première et je suis enchantée d'être parmi vous, là, à l'Université du Québec en Outaouais.
Mais parce que là, vous êtes descendue de Montréal.
Non. J'habite de l'autre côté maintenant. J'habite à Ottawa. Okay. Donc, je suis entre Montréal et Ottawa pour le travail, mais moi ça me permet aussi de me déployer plus dans cette zone aussi, donc je trouve ça vraiment intéressant. Et je disais quand je vous ai rencontré que la première fois que j'ai entendu parler de vous, c'était lors de la rencontre de la QPC.
Il y a presque deux ans
maintenant. Et c'était justement sur cette question du plagiat, de l'intégrité intellectuelle. Puis j'avais vraiment été très intéressée. J'ai un peu suivi de loin ce que vous faisiez. Puis j'ai fait le grand saut. Donc c'est ça, Martine Pisser, je vais vous demander, ok, qui êtes-vous? Et pourquoi vous allez nous parler d'intégrité en fait académique aujourd'hui? C'est quoi un peu votre parcours?
Alors, mon parcours, c'est un peu un parcours d'un professeur qui commence puis qui sait pas quoi il s'embarque. Alors moi j'ai un doctorat et j'ai été embauchée en premier lieu à l'UQAM.
Oh, d'accord.
Et à l'UQAM, donc j'ai commencé tout ça et là il fallait que je fasse des projets de recherche. Moi ça m'intéresse toujours la technopédagogie. Alors j'ai travaillé avec des projets de recherche sur la technopédagogie.
Mais c'était quoi votre spécialité en fait de doctorat?
Moi ma spécialité de doctorat c'est didactique des langues secondes.
OK.
Donc
ce que j'ai fait aussi.
Ben voilà. Alors mais vous voyez pourquoi lien entre technopédagogie et
les langues,
l'apprentissage de langues.
Exactement.
Etc. Donc, ce qui m'a tranquillement amené à cheminer. Et à un moment donné, en 2006, on a eu la première grève étudiante.
En 2006, à l'UQAM.
En 2006.
Okay.
Et moi, j'enseignais un cours à la maîtrise. Et mes étudiants ne voulaient pas perdre leur session. Ils m'avaient demandé, pouvez-vous nous donner des travaux à faire à la maison pendant la grève? Mm-hmm. Alors, j'aurais donné une liste de travaux. Ils sont partis. Quand finalement la grève a terminé, j'ai reçu une pile de travaux de mes étudiants que j'ai commencé à corriger. Et là, je corrige le travail d'un étudiant en particulier. Et je dis, bon, OK, c'est bien et tout ça. Donc, je lui donne une note et je corrige le deuxième travail. Et je dis, waouh, j'ai dit, il y a tellement une amélioration entre le premier et le deuxième. J'ai dit, ça n'a pas de sens. Alors, je suis allée vérifier. Effectivement, il avait plagié son deuxième travail. Et là, quand je suis retournée vérifier le premier, il avait plagié le premier, mais en moindre...
Mais c'était quoi, là, la dimension? Comment vous avez réussi? Parce que le plagiat, on le connaissait comme quelque chose. Avant, on avait accès aux bibliothèques. Oui. Puis, on reprenait alors, c'est ça, c'était de reprendre des passages, de les appliquer, de pas citer ses sources, etc. Comment vous avez détecté, en fait...
L'étudiant avait copié-collé du web. Et donc, il avait pas cité ses sources dans son travail.
D'accord.
Et dans le premier, le deuxième, le troisième, etc.
Oui.
Donc, il y avait il y avait cette habitude-là, cet étudiant-là, parce que je l'ai questionné, j'ai dit, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, j'ai parlé à ma directrice de département, puis elle m'a dit, ben, tu fais venir l'étudiant, tu lui poses des questions. Et il dit, ben, moi, c'est comme ça que je fais, je travaille, je prends des informations que je trouve sur le web, je le dépose dans mon document Word, mais quand c'est dans mon ordi, ben, je le retravaille un peu, tout ça, puis je le remets.
Sans citer les sources,
et voilà, et c'est un étudiant de maîtrise.
Alors, ah, quand même!
Bah, quand même, exactement. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que l'étudiant, donc, il y a eu un échec dans mon cours et il a fait appel de la décision au niveau du département. L'échec est demeuré au niveau du département. Il a fait une demande de révision de notes au niveau de la faculté. À la faculté, on lui a donné un cours de français à faire de plus parce que son niveau de langue n'était pas très bon. Mm-hmm. Et un cours d'éthique. Mais là, d'accord, l'étudiant était encore pas content de ça, de la décision. Et là, il est allé plus loin, il est allé au niveau de l'ombudsman.
Mais comment il pouvait...
Et parce que c'est des recours auxquels il a droit. Et là, quand il est allé au niveau de l'ombudsman, alors que les deux autres fois, moi, j'étais pas présente quand les gens l'ont rencontré, les deux autres fois, j'étais présente quand ils l'ont rencontré. Et il a dit très clairement, mais elle m'a jamais dit que je pouvais pas faire ça. Et là, je me suis remise en question, et c'est là où ça a débuté.
Mais est-ce qu'à l'époque, il y avait un cadre? Parce que c'est vrai que moi, quand je suis rentrée à l'université, je suis rentrée en 1998. Je ne me souviens pas de toutes mes années, mes premières années universitaires. Je pense que j'ai commencé à entendre parler d'un cadre à partir de la maîtrise. Qu'est-ce qu'il en était à l'époque de...
Il y a des politiques institutionnelles au baccalauréat comme à la maîtrise, à tous les cycles. Il y a des politiques qui existent, qui disent qu'il faut respecter l'intégrité académique.
Et qui ont toujours existé.
Ça existait à ce moment-là, ça existe encore maintenant. Donc, l'étudiant, il avait plagié, il a été reconnu coupable. Mais au niveau de l'institution, on lui a dit clairement que c'était du plagiat qu'il avait fait et il a été expulsé de l'université.
Ah, oh, il a été expulsé?
Oui.
Ouais,
oui,
il a été trop loin quand même.
Mais ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que lui disait que c'était ma faute. Parce que dans le plan de cours, c'est écrit, aller voir la politique institutionnelle.
C'est transversal, c'est une connaissance qui est transversale à toutes les disciplines.
Mais il n'avait pas été formé. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressée. J'ai dit, pourquoi est-ce que, premièrement, c'est vrai qu'il n'a pas été formé? Et deuxièmement, pourquoi le système permet, parce que c'était un étudiant étranger, donc qui arrivait au Québec, qui n'avait pas été bien formé, et en plus, il était en deuxième année de maîtrise. Pourquoi est-ce qu'on s'était pas rendu compte avant qu'il y avait cette lacune-là? Parce que je suppose qu'il y avait plagié dans les autres
travaux. Un plagieur, une plagieuse sont des anciens, ils ont testé, c'est pas nouveau, c'était pas la première fois.
Ben, probablement pas, mais là, bref, il n'avait pas été formé, et c'est vrai, je l'ai constaté par la suite. Et c'est pour ça que mes travaux de recherche, à partir de ce moment-là, ont commencé, non pas ça m'intéresse, mais pas du tout de savoir qui sont ceux qui ont plagié, puis pourquoi ils ont plagié. On le sait, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus. Mais comment on peut prévenir en les formant, puis surtout en formant nos enseignants, parce que au fur et à mesure, je me suis rendu compte que nos enseignants n'ont pas été formés pour prévenir le plagiat chez nos étudiants. Mm-hmm. Et donc, après ça, on est surpris quand ils nous disent « ben, je ne le savais pas ».
Ouais, mais il y a beaucoup de questionnements par rapport au plagiat. Maintenant, c'est sûr que c'est pas le plagiat avec maintenant les nouvelles technologies, notamment l'IA générative. On parle de plagiat, mais on a tendance maintenant à peut-être étirer ça aussi vers la question de l'intégrité académique, mais du rapport à la connaissance qui est remis en cause maintenant beaucoup avec des utilisations de l'utilisation de l'IA générative comme ChatGPT. Donc, du plagiat à l'intégrité académique. C'est quoi, en fait, ces notions, si vous pouvez nous aider à comprendre, en fait, en quoi le plagiat, parler de plagiat, c'est une chose, parler d'intégrité académique, c'en est une autre.
OK. Premièrement, si on pense à l'intégrité académique, c'est une des valeurs fondamentales qu'on veut développer chez nos étudiants, qui sont nos futurs citoyens, qui vont voter, qui vont être nos dirigeants, etc., etc. Donc, c'est notre rôle à l'université d'amener les étudiants à comprendre pourquoi c'est important, premièrement, d'être intègre.
Oui.
Puis par défaut, d'être intègre à l'université, donc d'avoir une intégrité lors de ses études. il y a plusieurs recherches qui démontrent que si les étudiants, pendant les études, ont pris des mauvaises habitudes, on va dire comme ça, ces mauvaises habitudes-là se retrouvent ensuite dans leur milieu de travail. Donc, est-ce qu'on veut avoir un étudiant, par exemple, puis là, je donne le cas d'un médecin, est-ce que vous voudriez être opéré par un médecin qui a triché, qui a plagié pendant toutes ses études?
Non, ça va aller.
Personne ne veut ça. Surtout quand on sait que par la suite, il va avoir ces mêmes habiletés-là. Puis là, je parle d'un médecin parce que c'est vraiment, ça frappe. Mais est-ce que vous voudriez que vos enfants aient devant eux un enseignant qui a triché, qui a plagié pendant toutes ses études? Quel genre de valeur cette personne-là a qui ensuite va... avoir des répercussions.
En plus, c'est la valeur, mais c'est non seulement aussi la connaissance, le rapport à ce qu'on transmet aussi.
C'est là où, vous m'avez demandé pourquoi est-ce qu'on met l'importance sur le plagiat. Parce que les recherches démontrent un étudiant qui a plagié n'a pas fait les apprentissages ou les a fait en surface, les apprentissages qu'on voulait lui demander de faire. Donc, faire son travail par l'IA générative, l'étudiant n'apprendra rien. Et donc, ce qu'on veut éviter, c'est que cet apprentissage-là soit fait par une machine, alors que c'est les étudiants qui doivent le faire. Il y a des façons d'utiliser l'IA générative qui va amener un apprentissage. Mais prendre une IA pour rédiger ses travaux qu'on va remettre à son enseignant, il n'y a pas d'apprentissage à faire là. Et c'est vraiment là où on veut que les étudiants fassent preuve d'intégrité et se disent, moi, je suis ici, j'ai payé pour apprendre, puis là, je parle à l'université.
Mais
c'est exactement la même chose au cégep, puis au secondaire, puis au primaire. On veut que les étudiants soient là pour apprendre. Si je pense à un élève du primaire, c'est sûr qu'il peut aller avec l'IA générative, puis lui demander de faire toutes ses additions, ses soustractions. Sauf qu'à un moment donné...
Ça va bloquer.
Il a besoin de l'apprendre. Puis là, ça, c'est en primaire, c'est la même chose au secondaire. On veut que les étudiants développent les connaissances et les compétences qui vont leur permettre ensuite d'être un citoyen actif dans notre société, mais aussi de se servir de bonne façon de l'intelligence artificielle.
Mais en ce cas-là, c'est sûr que on comprend donc que l'intégrité académique, c'est des valeurs solides qu'on impose, et du moins aux étudiants, pour pouvoir évoluer dans leur apprentissage. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui est très intéressant, c'est que l'étudiant qui va remplir sa tâche par une requête en faisant rédiger la question de son enseignant ou de son enseignante, et qui va taper « rédige-moi un texte de 750 mots sur, je sais pas, la guerre de Waterloo », j'imagine, il va avoir tout son truc, et puis il va faire un copier-coller, et puis il va le soumettre à son prof. Mais il y a aussi la question de l'évolution aussi de ce qu'on demande aux étudiants et la préparation à cette ère numérique où, forcément, je me rappelle un peu, et j'en parlais avec mon fils hier, à l'époque, on avait des évaluations sur les dates de guerre, les dates importantes des guerres, etc., Christophe Colomb, et puis tout ça, etc. Et le contrôle, c'est de l'évaluation, c'était ça. On donne les dates, et puis ça faisait partie des évaluations, des fois sommatives, qu'on ajoutait avec des petites questions de situation historique, dans le cadre de l'histoire. Et ce qui se passe, c'est qu'actuellement, moi, je me pose la question, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui d'apprendre par cœur des dates historiques, alors qu'on pourrait peut-être appliquer, en fait, ces actions qui sont passées dans le passé pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui. Donc, ça demande... Maintenant, un travail des deux côtés. Ça demande à l'étudiant d'avoir un rapport à la connaissance qui est différent de « je paye, je consomme, je veux mon diplôme », mais ça demande aussi, et là, à l'enseignant de se réadapter.
Tout à fait.
Mais comment ça se passe? C'est quoi l'accompagnement qu'on peut avoir?
Mais cette adaptation-là des modèles, des types d'évaluation a déjà été faite. On n'a plus beaucoup, puis j'ose croire qu'on en aura encore de moins en moins maintenant avec l'intelligence artificielle qui entre dans le milieu éducatif. Mais on a de moins en moins d'enseignants qui demandaient justement des examens où il y a une mémorisation. On demande plutôt maintenant une compréhension des événements. Par exemple, si on reprend la guerre de Waterloo, qu'est-ce que ça veut dire, cette guerre de Waterloo? Parce que on est bien conscient que savoir en quelle année c'était, ça prend 2 secondes, même pas à un étudiant, d'aller trouver la date. Mm-hmm. Donc, savoir la date, ça importe peu. Mais comprendre pourquoi il y a eu cette guerre-là, comment ça peut s'appliquer maintenant, par exemple, aux guerres qui se déroulent maintenant dans le monde, mm-hmm. etc., cette compréhension-là et cette capacité-là de voir, faire des liens entre différents événements historiques est beaucoup plus importante. Et c'est quelque chose que l'étudiant doit développer par lui-même et non pas avec une intelligence artificielle. Donc, si on pense à la taxonomie de Bloom, mm-hmm. la mémorisation, c'est le premier niveau, c'est Bien le premier sûr. Palier. Mm-hmm. La deuxième, c'est la compréhension. Mais
l'analyse par la suite.
Exactement. Mais donc, ce qu'on veut maintenant, c'est que nos professeurs ne restent pas aux 2 premiers niveaux qui sont cette mémorisation-là. Puis la compréhension, c'est bien. Mais ce qu'on veut, quand je demande une évaluation de mes étudiants, c'est de les pousser plus loin. Là, tu as compris qu'est-ce qui s'était passé. Comment est-ce que tu pourrais maintenant l'appliquer, l'analyser, créer un autre, faire des liens en créant une carte conceptuelle pour dire quelles sont les différentes raisons pourquoi telles guerres ont lieu, etc. Mm-hmm. Donc, on veut les pousser à aller plus loin. Et ça, évidemment, ça demande la formation pour nos enseignants, quel que soit leur niveau, parce que on n'a pas toujours favorisé ce type d'évaluation-là. Par exemple, si je demande, qu'est-ce que tu as compris d'un livre? Fais-moi un résumé pour me montrer que tu as compris ce qui s'était passé dans ce livre-là. Mm-hmm. Ben, l'intelligence artificielle, maintenant, fait des résumés.
Oui, puis elle en fait...
Elle en fait en 20 secondes, oui. Beaucoup plus rapidement. Donc, demander un résumé, moi, c'est ce que je dis quand je forme les enseignants maintenant. Demander un résumé, ça ne vaut plus la peine de demander ça. Par exemple, de faire des liens entre différentes lectures qui ont été faites. Oui, l'intelligence artificielle peut faire ça également, mais ça exige de l'étudiant une analyse, une adaptation d'un endroit à l'autre, une réflexion qui est beaucoup plus poussée que demander tout simplement un résumé qui est du niveau de la compréhension. Exactement. J'ai compris le livre. Mm-hmm. Là, on veut les amener à aller plus loin.
Donc, ça veut dire que effectivement, l'utilisation de l'intelligence artificielle peut se faire à partir du moment où elle va nous permettre, nous, en tant qu'enseignants, de déclencher, en fait, un processus de métacognition ou de pensée critique de l'apprenant, plus que de s'arrêter, en fait, aux 2 premières étapes, qui sont les étapes, en fait, de compréhension du contexte. Mais en ce cas-là, il y a aussi la manière dont l'éducation est dans la manière dont le système est fait, la manière dont on doit évaluer. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Puis, en tant qu'enseignant, en tant que pédagogue, c'est souvent difficile de naviguer entre ce qui nous arrive en pleine face. Parce que là, l'intelligence artificielle et tout ça nous arrive en pleine face. C'était beaucoup plus à l'époque de 2006, quand vous aviez détecté en fait le plagiat dans le texte de cet étudiant, vous avez tout de suite vu qu'il avait copié, collé ou qu'il avait paraphrasé sans donner ses sources. Mais la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle, elle est plus complexe dans cette question de plagiat parce qu'on ne sait pas souvent si c'est du plagiat ou pas. Exemple. Mon fils est encore à la fin du secondaire, il va bientôt rentrer au cégep, puis il expliquait en fait que c'était interdit. Ils avaient tout le monde dans son système scolaire, ils ont tous interdit, les enseignants ont interdit l'utilisation de ChatGPT. Mais par contre, ce qu'il expliquait, c'est que on l'a interdit parce que le prof ne veut pas faire un texte qui est constitué par ChatGPT et qu'on lui renvoie. Alors je dis, mais toi, est-ce que tu l'utilises? Il me dit, ben oui, en fait, maman, je l'utilise, mais je lui dis, tu l'utilises comment? Et là, il m'explique en fait qu'il a des idées, qu'il écrit tout son texte, qu'il copie-colle son texte dans ChatGPT et il demande à ChatGPT quelles seraient les avenues de réflexion supplémentaires que je pourrais avoir. Et là, je lui dis, attends, donc ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ChatGPT te dit, oh, t'aurais pu penser à ça, 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 puis qu'est-ce que tu en fais après? Et là, il me dit, ben là, c'est là où je vais aller explorer et aller vérifier en fait si les connaissances et les avenues qu'ils m'ont données peuvent être ajoutées ou pas à mon texte. Mais je savais pas quoi penser de ça, plagiat ou pas. Il y a un mécanisme qui est en train de se faire, mais est-ce qu'il a le droit ou pas? Et moi, en tant qu'enseignant, c'est un peu cette frontière qui est, pas stable, qui est difficile à définir dans l'utilisation de ces outils-là. Un étudiant qui, dans le cadre de l'apprentissage du français, un autre cas qui va être amené à pouvoir comprendre un peu plus de choses grâce à la technologie, à être amené à pousser sa réflexion et comprendre pourquoi il va utiliser tel ou tel temps dans ses actions, dans le temps du récit, par exemple, va avoir tendance à apprendre un peu plus vite quand même en utilisant ces outils, et ça va peut-être lui ouvrir d'autres possibilités aussi de compréhension. Donc en ça, comment on fait dans ces situations?
Ben, je vais prendre les deux situations, si vous me permettez. Premièrement, pour votre fils, il a rédigé son texte. Donc, il n'a pas fait de plagiat. On suppose que s'il a utilisé des sources, il a donné ses sources, etc. Et quand il a demandé à l'intelligence artificielle de lui donner plus d'idées, s'il a pris les idées et il a rédigé à partir des idées, c'est pas différent que d'être allé chercher des idées dans un livre ou sur Internet. Okay. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il est allé, si vous avez fait lire son texte, puis vous avez demandé des idées, et qu'ensuite il avait rédigé le texte pour intégrer les idées que je lui avais données, c'est pas du plagiat. Évidemment, si il y a des sources, si les idées proviennent de quelqu'un, il va donner ses sources.
Oui, exactement.
Donc, aller chercher de l'aide de ChatGPT pour avoir des idées, etc., c'est pas du plagiat. Évidemment, si ChatGPT lui dit il y a 57% des étudiants au Québec qui font telle chose, ben votre fils doit bien comprendre que c'est pas ChatGPT qui a trouvé le 57%.
Oui, c'est ça.
Donc il faut retrouver
sa source.
Exactement. Alors, il y a pas de problème à ce moment-là. Si par contre, quand tu lui as demandé à ChatGPT, peux-tu me donner d'autres idées pour enrichir mon texte, et que ChatGPT a rédigé, donc lui a donné des paragraphes dans lesquels il ajoutait des textes, et qu'il a pris ce texte-là et il l'a remis à son prof, ben il l'a pas rédigé. Donc il a utilisé, et moi c'est pour ça que je fais toujours bien attention quand je parle de ce que l'intelligence artificielle apporte, donc cette génération-là. Dès que je parle de génération de texte, pour moi c'est du plagiat si l'étudiant utilise le texte généré dans son texte. Donc pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle a généré du texte, ce n'est pas l'étudiant qui a rédigé. Donc l'étudiant fait passer pour sien les mots que l'intelligence artificielle a rédigés. C'est du plagiat. Ça, c'est votre premier cas. Donc, tant et aussi longtemps qu'il va chercher les idées et qu'il n'utilise pas de texte généré par l'intelligence artificielle, c'est comme aller chercher des idées dans ailleurs. Donc, c'est une source d'information qui est autre que le livre à la bibliothèque.
On prend comme une source d'information à partir du moment où aussi on peut retracer les sources informations.
L'étudiant doit aller retracer les sources, etc. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Pour un étudiant qui est dans un cours de langue, là, c'est une autre histoire.
Ouais.
Parce que l'objectif pour votre fils, je sais pas le travail sur
anthropologie,
lequel, c'est anthropologie, ben l'objectif, c'est de faire des apprentissages sur l'anthropologie. Alors, quand ChatGPT lui donne d'autres idées, il apprend encore mieux. C'est comme un tuteur, c'est génial. Pour l'étudiant qui est dans un cours de langue, c'est une autre histoire. Parce que c'est une autre paire de manches, parce que l'objectif, c'est d'apprendre la langue. Alors, si il va demander à l'intelligence artificielle, ben recorrige mon texte, tout ça, ben l'intelligence artificielle, elle a pas d'apprentissage à faire au niveau de la langue, mais lui, il en a. Donc, lui, il a pas nécessairement appris comment accorder son texte, comment faire. À ce moment-là, pour moi, l'intelligence artificielle, dans le cadre d'un travail de langue, devrait être beaucoup plus limité, parce que l'objectif, c'est la langue qu'il faut développer. Donc, il faut regarder encore quel est l'objectif
aussi d'apprentissage. Ça peut être un texte avec des fautes. Moi, je sais que on explore aussi beaucoup l'utilisation de ChatGPT dans le cadre de l'enseignement de la langue. Puis c'est vrai que des fois, on peut soumettre un prompt où on me dit, fais-moi un texte de 250 mots avec des fautes d'ordre morphosyntaxique ou des fautes d'orthographe ou des fautes de grammaire, etc. Et on soumet, en fait, le texte aux étudiants, puis on leur demande d'aller vérifier les notes, les fautes, etc. Là, à partir de ce moment-là, l'enseignant l'a utilisé pour lui, son support en fait pédagogique, et le soumet à l'étudiant. L'étudiant peut aussi faire la même chose pour lui, son entraînement personnel. Mais là, il est toujours, ce que je comprends, dans un mécanisme d'apprentissage.
Exact.
OK.
Mais si, par exemple, l'enseignant a demandé à l'intelligence artificielle de produire un texte avec des fautes, et il demande aux étudiants d'aller faire la correction, et que l'étudiant le met dans l'intelligence artificielle et fait faire la correction.
Oui.
Et à ce moment-là, c'est de la tricherie. C'est pas parce que s'il remet ça au prof, puis il dit que c'est lui qui a fait la correction, alors que c'est l'intelligence artificielle, encore une fois, c'est une fausse représentation de ses compétences, de ses connaissances en contexte d'évaluation.
Ouais. Mais, okay. mais Martine, en ce cas-là, dans ces, parce que je reviens à votre exemple de 2006 où l'étudiant avait dit oui, mais on ne me l'avait pas dit.
Oui.
Quel est le mécanisme qu'on doit avoir aujourd'hui? Je vous disais, moi, mon fils, on lui a dit ChatGPT, c'est cool, mais ici, on ne l'utilise pas. Et on sait pertinemment. Alors, il y a plusieurs choses. Quand on dit non, on n'utilise pas, ben, généralement, il y aura des répercussions. Ben, généralement, et en plus, avec la technologie qui va très vite, il peut y avoir des étudiants filous ou plus se sentant plus intelligents que les autres pour trouver les failles. Donc ça, c'est un problème. Il y a aussi le cas de on interdit, mais on sait pertinemment que c'est une technologie qui est là pour rester et qui va de plus en plus se développer et qui va définitivement faire partie de la vie de ces citoyens en devenir.
Oui.
Alors, comment on aborde la question? Est-ce que c'est mieux de l'aborder dès le début de son cours? Comment on s'y prend?
Mais finalement, je pense qu'il faut être transparent avec les étudiants. Et il faut leur dire, voici dans le cadre de mon cours, et les prévenir. Ça, c'est pour mon cours. Pour le cours que vous prenez avec tel autre prof, ça va être autre chose. Renseignez-vous. Donc, dans le cadre de mon cours, vous avez droit d'utiliser l'intelligence artificielle de telle façon. Vous n'avez pas le droit, par exemple, moi, dans mes cours, ça va être la génération de texte, c'est non, c'est du plagiat. Mais vous en servir comme tuteur, vous en servir, par exemple, pour moi, les étudiants avant, ils utilisaient Antidote pour corriger leur texte. Donc, ils utilisent l'intelligence artificielle pour corriger leur texte. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je ne donne pas un cours de langue. Je suis dans une discipline spécifique. Alors, moi, ce que je veux, c'est qu'ils développent les connaissances de la discipline. Donc, s'ils me remettent un texte où ils ont moins d'erreurs parce qu'ils l'ont fait corriger par une intelligence artificielle, moi, je vais me dire, c'est une bonne stratégie.
Ouais.
Parce que, et puis c'est ce qu'ils vont faire quand ils vont
être dans le milieu du travail.
Vie. Oh, exactement.
Exactement.
Donc, je veux que mes étudiants utilisent l'intelligence artificielle pour des apprentissages qu'ils vont faire. En contexte d'évaluation, c'est mon rôle de leur dire de façon très, très précise, voici ce avec quoi vous pouvez ce que vous pouvez faire avec l'intelligence artificielle et ce que vous ne pouvez pas faire. Ceci dit, dans le moment, tout est nouveau, tout est rapide.
C'est ça.
Et je pense que les professeurs doivent se donner un certain temps pour être formés, pour apprendre eux-mêmes ce que c'est, etc. Donc, pour les prochains 6 mois, la prochaine année, les prochains 2 ans, demandez aux étudiants d'écrire un texte, par exemple, si quelqu'un veut faire un texte, ou d'écrire un examen, crayon, papier, ça se fait encore.
Oui, donc utiliser d'autres modes d'évaluation,
exactement,
qui peuvent être aussi un entretien oral aussi,
exactement,
ou autre chose pour diversifier.
Exactement. Et s'assurer que les étudiants, que ce qu'on est, finalement, ce qu'on veut comme professeur, c'est évaluer les connaissances et les compétences de l'étudiant et non pas de l'intelligence artificielle.
Donc, retour aux grandes salles d'examen avec papier, stylo et feuilles?
S'il faut retourner à ça, c'est possible pour le moment. Je pense que les fameux examens que si vous m'aviez posé la question il y a 2 ans, avant l'intelligence artificielle, je vous aurais dit, c'est plus le temps. On
oui.
est passé. C'est pas le temps d'utiliser les examens.
Mais c'est ça.
Passons à autre chose. Et moi, je prône l'évaluation authentique, donc avec des types de travaux qui vont refléter ce que l'étudiant va faire éventuellement dans son métier, dans sa profession. Ça donne un sens à l'évaluation pour l'étudiant. Puis quand l'étudiant voit le bénéfice de faire l'évaluation, ben, il y a beaucoup plus de chances qu'il va la faire et qu'il ne va pas tricher ou plagier pour la faire.
Oui, c'est ça. Lors du dernier balado, justement, j'avais interviewé Nabil Tayeb, qui, lui, avait développé, en fait, un système de détection à la base. C'était pas un système de détection d'IA, mais en fait, il expliquait que ça ne fonctionnait pas. Et puis, il m'expliquait pourquoi ça fonctionnait pas. Et il y avait quelque chose qu'il avait dit, parce qu'il était aussi, finissant lui-même de son cycle. Il avait monté une jeune pousse, etc. Donc, il était vraiment dans le lancement, en fait, de son activité. Et il expliquait, mais il me disait, tu sais, Florence, un étudiant en soi, tu sais, je te parle des étudiants à l'université, j'en ai pas rencontré des beaucoup qui veulent nécessairement plagier ou essayer d'avoir un diplôme pour rien, parce que ça implique, tu sais, c'est un développeur qui va développer après des systèmes qu'on va retrouver dans des systèmes embarqués en avion ou ce genre de choses. Il n'a pas intérêt à plagier parce qu'il connaît les répercussions, il veut apprendre, il veut travailler, puis ça va être quelqu'un, c'est un étudiant qui veut réussir dans son apprentissage. Mais c'est vrai que il y a cette notion aussi de plus en plus fréquente qu'on entend, qui est la surcharge aussi cognitive de et le, j'allais dire en anglais, mais vraiment la charge de travail qui peut être allouée à un étudiant dans sa vie de jeune personne. Et c'est en ça où souvent, et vous parliez d'études, où ça peut être aussi un facteur de comment je vais gagner du temps, etc. À partir du moment où il y a des outils qui permettent de faire gagner du temps aux étudiants, généralement, les étudiants tendent à vouloir gagner du temps et aller vers ces outils-là. Un autre exemple que j'ai, justement, c'est, je donnais l'exemple de la revue de littérature. Il y a maintenant des outils qui permettent, en mettant des mots-clés, d'avoir en fait une vaste revue de littérature scientifique sur une thématique donnée. Or, moi, ça m'est déjà arrivé, en tant que professeur, même à l'université, d'aborder en fait la revue de littérature scientifique en amenant une sorte d'évaluation. Ce qui m'intéressait, moi, c'était la recherche de l'étudiant, comment il avait développé sa recherche, puis comment il en était venu à former en fait une je dirais une sorte de thèse, en tout cas une argumentation qui lui permettrait de développer ses idées. Maintenant qu'on a des outils d'IA qui nous permettent d'avoir des revues de littérature scientifique. Pour moi, enseignante qui comptait un peu sur ça dans la démarche, il va devoir y avoir un peu plus de profondeur dans la demande de la tâche. Mais ma question, c'est, cette profondeur, il me faut du temps pour la trouver, cette profondeur, il me faut du temps pour me former. Ça nous arrive, comme on dit, en pleine face, et ça nous arrive dans un système aussi qui est en train de se remettre en question, mais le système en fait d'éducation, c'est un système quand même qui est très rigide. Généralement, on est un peu les derniers à s'adapter à la technologie. Alors, c'est quoi les conseils que vous aurez par rapport à ça?
Ben là, c'est parce que vous en avez dit plus, vous avez mentionné plusieurs choses.
Oui, c'est vrai, je fais toujours ça.
Oui, mais je voudrais dire que premièrement, il faut dire aux étudiants, et ça devient très, très, très important, pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce que vous voulez quand vous vous inscrivez à l'université ou au cégep ou à l'école secondaire et
On m'a
s'inscrivez pas,
jamais
mais
posé cette question, moi, à l'université.
non,
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 jamais.
non. Puis, est-ce que vous êtes ici pour faire le travail nécessaire pour développer les compétences, acquérir les connaissances que vous allez avoir besoin éventuellement sur le marché du travail? Donc, du moment où ils s'engagent, puis ils disent, oui, moi, c'est pour ça que je suis ici, parce qu'on s'entend, il y en a très peu avant qui plagiaient. C'est une minorité d'étudiants qui plagient, mais on peint tout le monde de la même couleur. Ça va être encore la même chose. Les étudiants, la plupart d'entre eux, sont honnêtes et veulent faire leur travail avec intégrité. Donc, il ne faut pas penser que c'est tout ça.
Donc, dans vos recherches, ça n'a pas vraiment changé. Est-ce que...
Ce qui a changé, puis là, c'est pas justement mes recherches, c'est plusieurs. Ce qui a changé, c'est que maintenant, on a des logiciels. Là, c'est autre chose pour l'intelligence artificielle. Mais on avait des logiciels maintenant qui étaient capables de faire la détection de similitudes.
Oui.
Donc, on trouve plus d'étudiants qui ont plagié, mais est-ce qu'il y en a en réalité plus
Oui.
ou est-ce que il y a le même montant? Ça, c'est un grand débat dans le
Ouais, c'est
domaine,
ça.
mais je vous dirais, c'est pas ça qui est important. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on a autant d'étudiants qui apprennent ce qu'ils doivent apprendre qu'on en avait avant? Parce que on s'entend que les étudiants d'aujourd'hui, puis ça me ramène à ce que vous avez dit tantôt, les étudiants d'aujourd'hui, oui, semblent manquer de temps. Mais pourquoi ils manquent de temps? Puis c'est pour ça que je leur dis, il faut leur dire, vous êtes responsable. C'est pas ma responsabilité. Moi, je suis passée, je l'ai fait mon baccalauréat, je l'ai fait ma maîtrise. Vous êtes responsable de votre apprentissage. Et si vous choisissez de jouer des jeux vidéo, par exemple, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui le font, si vous choisissez de jouer des jeux vidéo plutôt que de faire vos travaux,
D'être sur les réseaux sociaux,
d'être sur les réseaux
c'est
sociaux,
ça.
de regarder les YouTube de ce monde, il y en a, il y en a, il y en a, Ben, à ce moment-là, quand vient le temps de faire vos travaux puis que vous manquez de temps, ou quand vous choisissez, parce que maintenant, c'est un problème pour plusieurs étudiants, il y en a beaucoup, beaucoup qui travaillent
oui.
de très longues heures. Ben, à ce moment-là, vous choisissez pas d'être étudiant, vous choisissez de travailler. Donc, il y a des choix à faire et c'est loin de, c'est pas du tout mon intention de leur dire quel choix faire. Sauf que vous pouvez pas blâmer le système quand il y a beaucoup de travaux, etc., puis que vous avez choisi de faire autre chose et vous manquez de temps, puis là, vous allez utiliser l'intelligence artificielle pour tricher. Donc, moi, je pense...
La carte de la transparence, puis d'échanger avec eux sur le pourquoi ils sont...
Et je pense que c'est pas suffisamment fait avec les étudiants pour leur dire, pensez à pour quelle raison vous êtes ici, puis ensuite, les choix vous appartiennent.
Oui.
Mais... ce sont vos choix et vous allez devoir vivre avec les conséquences. Donc, premièrement. Deuxièmement, il faut absolument que les étudiants demandent d'être formés avec les outils de l'IA. Donc, non seulement avant, on avait des outils de formation que les étudiants devaient avoir, mais maintenant, il faut rajouter les outils de formation qui sont pertinents dans leur discipline pour l'IA.
Oui.
Alors ça doit absolument être fait.
Le cadre, c'est déjà de débuter par une question en fait qui est naturelle. C'est pourquoi vous êtes ici. Et généralement dans votre expérience du pourquoi vous êtes ici, les étudiants sont très ouverts à s'exprimer.
Tout à fait. Les étudiants sont veulent apprendre, sont honnêtes, etc. Donc, ils le disent, je suis ici pour apprendre, je veux devenir, dans mon cas, moi, je suis en éducation, donc les étudiants veulent devenir enseignants, etc. Mais quand on pose la question, quand on est plus près de la remise de travaux, ben là, j'ai pas le temps, j'ai ci, j'ai ça, il y a beaucoup d'excuses qui font surface. Et il faut ramener les étudiants en leur disant, oui, mais au début, tu m'as dit que tu étais ici pour apprendre.
Oui.
Et si je te demande de faire tel travail, voici ce que tu feras apprendre. On a tendance, les profs, à ne pas dire aux étudiants, voici pourquoi je te demande de faire ce travail-ci et qu'est-ce que tu vas apprendre en faisant ce travail-ci. Et ça devient tellement important si on veut favoriser l'intégrité chez les étudiants en leur disant, voici l'importance de ce travail.
Mais là, ça veut dire que, parce que pour moi, c'est quelque chose peut-être parce que j'enseignais les langues, donc il y a toujours la question de l'objectif d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui, puis quels vont être tes critères de succès? Mais ça veut dire que pour vous qui êtes maintenant qui enseignez à des profs en devenir, comment ça se passe? Est-ce que c'est des choses dont un enseignant est conscient de ses objectifs d'apprentissage, ou en fait, il n'en est pas nécessairement conscient, parce que vous dites qu'on ne dit pas souvent aux étudiants la raison pour laquelle ils apprennent.
Bien, on ne leur dit pas parce qu'on suppose qu'ils le savent. S'ils sont en train de prendre un cours, ils connaissent, ils voient dans le plan de cours quels sont les objectifs du cours, etc. Mais les objectifs du cours, c'est très large. L'objectif du travail, c'est une partie des objectifs du cours.
Ouais.
Et donc, faire ce lien-là, ça devient important. Plus les étudiants sont engagés, plus ils vont vouloir faire le travail. Et évidemment, plus ils font le travail, plus ils vont apprendre quelque chose.
Ouais. C'est
donc,
ça.
Donc, ça semble être très banal ce que je dis, mais ce n'est pas du tout parce
ouais,
qu'on ne le dit pas aux étudiants.
On ne le dit pas assez. Et maintenant, du côté du prof, la question tout à l'heure, c'était, mais comment on fait pour s'adapter avec toute cette technologie? Nous aussi, il faut savoir aussi qu'on l'utilise. Moi, en tout cas, j'accompagne beaucoup en fait d'enseignants qui veulent s'approprier la technologie. Et ce qui se passe dans cette appropriation de la technologie, c'est qu'on leur dit, mais regardez, l'IA générative, ok, il y a la question du plagiat et tout ça, voilà comment on peut faire. Mais de votre côté, ça peut vous aider aussi pour la planification des plans de cours, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui me titille un peu dans cette histoire, c'est sachant que les enseignants ne sont pas nécessairement formés à ce type de technologie, elle est où la limite aussi de l'utilisation de la technologie pour un enseignant? Parce qu'à ce moment-là, si je peux, moi, en tant qu'enseignant, demander à mon intelligence artificielle de me générer un plan de cours, il y a qui, moi, pour aller voir au niveau de mon travail si vraiment, dans mon intégrité intellectuelle, si vraiment ce plan de cours, il a été généré et il est en corrélation avec mes idées, la manière dont je veux aborder le cours. Est-ce qu'il y a un cadre où il y a quelque chose qui est en train de se former aussi par rapport à l'utilisation de l'IA générative du côté des enseignants, ou pour nous, c'est open bar, on peut faire ce qu'on veut?
Ben non, non seulement on ne devrait pas faire ce qu'on veut, notre premier rôle comme enseignant, c'est d'être un modèle.
Mm-hmm.
Et donc, j'ai aucun problème si quelqu'un génère un plan de cours pour, ou des activités, par exemple,
oui.
pour les étudiants, mais quelque part, ça devrait être indiqué. Cette activité-là a été élaborée par l'intelligence artificielle et adaptée pour les besoins spécifiques du cours.
Donc, il faut citer...
Non, attention, on ne cite pas.
On ne cite pas, mais on mentionne
qu'il y a une... On est transparent et on mentionne que l'IA a été utilisée pour aider à monter le plan de cours ou l'activité que les étudiants font.
Mais là, on sort de l'usage de l'IA parce que généralement, on entend, oui, l'IA, c'est... Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas nous remplacer, nous, en tant qu'êtres humains, notre intelligence, etc. C'est un outil. Si je mets l'IA en outil, comme un outil qui est un outil de traitement de texte, doc, ou antidote, ou autre chose, je ne mentionne pas nécessairement dans mes traitements de texte que j'ai utilisé tel ou tel outil.
Oui, mais là, s'il y a... Moi, et là, moi, je reste dans toute cette idée-là. Mon travail avec l'IA, c'est vraiment en lien avec la
avec
mobilité.
Les, oui, bien sûr.
Okay. Mm-hmm. Si un enseignant veut être intègre, veut être un bon modèle mm-hmm. pour ses étudiants, qu'est-ce que ça lui enlève de dire « Mon plan de cours a été élaboré avec l'aide de l'IA ». Attention, vous avez vu, j'ai pas dit « a été généré par
oui,
l'IA ». Pourquoi? Parce qu'il y a aucune IA qui va présenter, oui. Générer un plan de cours qui est suffisamment spécifique.
Oui, c'est ça.
Donc, il y a une adaptation qui est nécessaire.
Mm-hmm.
Donc, le prof, mais ça fait preuve de transparence que de dire. Là où c'est différent, c'est que le prof, il n'est pas évalué.
Oui.
Il ne va pas recevoir une note pour avoir monté
ben,
son
quoi
plan
qu'on
cours.
A les évaluations par nos élèves.
On a les évaluations par nos élèves, oui, mais j'ose croire que c'est plus que pour le plan de cours.
Mais oui.
Par contre, si je pense à un prof universitaire où je dois soumettre un texte à une revue scientifique, par exemple, je dois rédiger un article, ben à ce moment-là, c'est exactement oui. la même chose que si j'ai fait générer une partie du texte par l'intelligence artificielle et que je dépose mon texte pour évaluation, à ce moment-là, ça va être du plagiat. Donc, il y a une différence entre les tâches quotidiennes, comme monter des activités pour mes cours, etc.
Mais le travail de recherche.
Ou j'ai un travail que je fais pour être évalué. Par exemple, si je veux obtenir ma permanence ou je veux avoir une promotion, ben c'est un travail que je vais soumettre pour évaluation. À ce moment-là, si je le fais générer par l'IA, ben c'est du plagiat. C'est mm-hmm. une fausse représentation de mes capacités, de mes compétences, de mes connaissances. À ce moment-là, ça ne devrait pas être permis.
Oui, ça ne devrait pas être permis.
Mais si c'est pour monter, tantôt vous avez parlé de faire générer un texte avec des erreurs que les étudiants vont corriger, bien, il n'y a absolument aucune évaluation de mon travail de prof dans ça. Ce n'est pas nécessaire. Mais moi, je mettrais en bas de la page.
Oui, c'est super intéressant.
J'ai eu de l'aide de l'IA pour préparer cette activité.
Puis les étudiants le voient.
Et donc,
et ils commencent à rentrer dans un mécanisme par l'exemple de se dire qu'ils vont le citer aussi quand ils utilisent l'IA.
Quand j'ai fait des présentations dans les derniers mois, moi je dis les étudiants et les profs, s'ils veulent le faire, ils devraient, quand ils remettent un travail à leur enseignant, les étudiants devraient faire une bibliographie, mm-hmm. ça va de base, mais ils pourraient faire ce que moi j'ai appelé une iographie. Ou à ce moment-là, ils vont dire, j'ai utilisé tel outil de l'IA
oui.
de telle façon. Voici, par exemple, la requête que j'ai donnée et je m'en suis servi dans telle section de mon document. Donc, il y a un souci de transparence de la part des étudiants. Et à ce moment-là, l'enseignant qui s'en sert pour monter des tâches, etc., à ce moment-là, a le même souci de transparence.
Donc, je comprends, pour faire vraiment le wrap-up, je dirais, oui, c'est ça, les idées que vous donnez, mais qui sont, en fait, des idées qui vont tellement de sens. Là, vous le dites, et je dis, ben oui, enfin, mais non, mais C'est pas évident parce que quand, à la question de pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous apprenez, pourquoi on est en cours, quelle est votre démarche, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Ça, c'est une question, personnellement, que j'ai rarement entendu, puis que je me vois je ne me vois pas poser cette question. Elle peut être inhérente peut-être lors de conversations individuelles avec mes étudiants, mais il n'y avait pas une approche en début de cours d'avoir ce type de question. Donc, je pense que déjà, c'est bien de poser un peu l'attente de cette manière, mais il y a aussi cette idée, quand, en tout cas, en tant qu'enseignant, on utilise l'outil de mentionner qu'il y a eu une utilisation de l'outil pour, en fait, pour une aide, en fait, pédagogique. Qu'est-ce qui se passe quand on chope un étudiant? Quand, en fait, on perçoit.
Premièrement, il faut savoir, les outils de détection, dans le moment, ne sont pas à point.
Non.
Ce qui veut dire qu'on ne peut pas attraper un étudiant parce qu'il y a des faux positifs, des faux négatifs.
Ouais.
Donc, on ne peut pas se fier à ces outils-là. Le seul moyen qu'on peut être certain qu'un étudiant a plagié avec l'aide de l'IA dans le moment, c'est si l'étudiant avoue.
OK, mais on voit des fois les occurrences. On voit que des fois, c'est un langage écrit normatif, mais que l'étudiant n'utilise jamais. Donc ça, on le voit, mais tant qu'il n'a pas avoué, il n'y a rien qui peut, il n'y a rien qu'on peut faire.
Ben, c'est assez difficile de sanctionner un étudiant qui n'avoue pas parce que il pourrait dire, oui, mais je suis allé chercher de l'aide, que ensuite j'ai modifié, etc. C'est quoi la ligne où on dit, c'est pas suffisamment modifié, c'est trop modifié? C'est comme les paraphrases maladroites. Oui. Les paraphrases qui ressemblent beaucoup à ce que l'auteur original a dit, mais qui ont été, il y a eu une tentative de paraphraser. Est-ce qu'on va punir l'étudiant pour ça? Donc, ça devient à peu près, ça devient très, très difficile au niveau de l'analyse du texte, de vérifier si ça a été fait par l'IA ou non. En plus, maintenant, il y a des requêtes, il y a des exemples de requêtes un peu partout. Et les étudiants le savent maintenant. Ils peuvent demander à l'IA de dire, écris-moi un texte pour mon cours de tel prof et assure-toi de faire ça d'un niveau d'étudiant de première année de bac.
Oui, c'est vrai.
Alors donc, c'est impossible de détecter. Donc ça, c'est bien important de se rappeler. Essayer de détecter l'IA avec... essayer de détecter qu'un texte a été généré par l'IA, dans le moment, ça ne vaut pas la peine. Donc, si j'attrape, je pense qu'un étudiant a fait le travail avec l'IA, à ce moment-là, il faut que je rencontre l'étudiant et il faut que je lui pose la question. Est-ce que tu as utilisé l'IA pour générer ton texte? Surtout si on avait dit que c'était pas permis. Là, il faut s'entendre que dès le départ, il faut avoir... indiquer que c'était pas permis de générer du texte avec l'IA. À ce moment-là, si l'étudiant n'avoue pas, ben à ce moment-là, il y a différentes façons d'aller vérifier les connaissances qu'il devrait avoir apprises.
C'est ça. Mm-hmm.
Donc, il faut faire une présentation orale, il faut lui poser des questions, on peut lui demander d'écrire, on peut lui... Puis là, c'est ça, est-ce qu'on veut être dans la... prévention, ce qui sont des types de choses, ou est-ce qu'on veut être dans la punition, où on va commencer à punir tous les étudiants? Il faut se rappeler. C'est là qu'on corrige des textes, tout ça. Donc, si je fais venir un étudiant et je lui demande, as-tu plagié en utilisant l'IA? Puis il me dit non. Puis moi, j'ai préparé des questions, alors je vais lui dire, OK, avec crayon papier, réponds à ces questions-là pour m'assurer que tu as bel et bien compris ou écrit le texte, ben c'est parce que premièrement on se rajoute de la correction, puis deuxièmement est-ce qu'on va commencer à vivre comme ça ou on va accuser nos étudiants de toutes les façons, ça devient intenable et ça devient
et puis le rapport est différent, on ne joue pas aux policiers et aux voleurs là,
exactement. Donc je pense que comme enseignant, la solution est dans la prévention. Parce que quand on est rendu dans la punition, la sanction, il faut premièrement détecter et être absolument certain que l'étudiant a fait du plagiat. Mm-hmm. Et c'est seulement à ce moment-là, quand il a avoué, qu'on peut sanctionner. Et on veut pas se rendre à jouer, comme vous dites, aux policiers. ça va rendre notre système de
mais infernal.
Infernal.
Exactement. On ne peut pas vivre comme ça en tant qu'enseignant.
Non.
Mais on arrive déjà à la fin. À la fin de notre échange, moi, ce que je retiens en tout cas, c'est que j'ai beaucoup appris sur le, rien qu'avec cet échange, sur le rapport qu'on peut avoir avec cette notion d'intégrité qu'on utilise partout pour plus dire plagiat, mais il y a quelque chose derrière cette notion d'intégrité. Et effectivement, c'est quelque chose même qui nous dépasse, nous, en tant qu'enseignants, puisque c'est les répercussions de, d'un adulte en devenir qui sera citoyen et qui va lui-même exercer son métier et transmettre aussi. Donc, c'est vraiment important et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, d'intégrité. En tout cas, est-ce que vous êtes un peu au courant au niveau de ce qui se passe au niveau des cadres? Parce que là, vous disiez tout à l'heure que, certes, un enseignant peut avoir le choix de ce qu'il fait avec l'intelligence artificielle dans le cadre de sa discipline. Pour l'instant, il n'y a pas nécessairement de cadre dans les universités, dans le réseau collégial, par rapport à l'utilisation de l'IA. Chaque établissement essaie de faire un peu comme il peut. Ça veut dire que c'est tout à fait possible qu'un étudiant d'une classe à une autre, d'une discipline à une autre, puisse l'utiliser l'IA et dans une autre classe, puisse ne pas l'utiliser.
Oui, mais ça a toujours été... Ça, oui. C'est au niveau, le prof est le responsable de son enseignement, donc il y a une certaine liberté de la façon dont il va le faire. Dans le moment, les universités, les cégeps sont en train de se doter de politiques sur l'intégrité, dans lesquelles maintenant, évidemment, l'IA va apparaître. Donc ça, c'est en train de se faire. Je ne pense pas que ce soit pertinent et une bonne idée de commencer à statuer qui peut et qui ne peut pas utiliser l'IA, parce que ça dépend tellement du style du prof, des compétences au niveau de technique du prof, de l'IA, tout ça. Mais il faut que les sanctions au niveau de si un étudiant plagie soient en place, et ça, c'est en train de se mettre en place.
Mais merci. Merci beaucoup.